c'est difficile d'être à la fois scientifique et littéraire, eh bien faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, c'est La Marche des Sciences. Aujourd'hui, émission exceptionnelle, nous vous proposons la diffusion du débat que nous avons eu le plaisir d'animer samedi dernier dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne à Paris, à l'occasion du 4e Forum France Culture, l'année vue par les sciences, autour du thème « L'humain dans tous ses états ». Un forum en partenariat avec l'Université Paris-Sorbonne et avec le soutien du magazine Science et Vie, du rectorat de l'Académie de Paris et d'Univers Sciences. Et dans ce cadre, devant un public attentif et réactif, nous avons débattu d'un sujet qui nous touche tous au quotidien et qui a suscité dans l'année écoulée de nouvelles discussions médiatiques autour de la santé et de l'alimentation. Cancer, obésité, est-il encore possible de bien manger? C'est le thème de cette table ronde, enregistrée donc samedi dernier en compagnie du docteur Chantal Julia, du professeur Serge Herberg, du journaliste spécialiste de l'alimentation Perico Legas et de l'économiste Bruno Parmentier. Bonjour à tous, merci vraiment d'être avec nous cet après-midi. Merci d'être présents aussi nombreux pour assister à ce débat, cette table ronde que nous avons intitulée « Cancer, obésité, est-il encore possible de bien manger ?» Alors c'est une question qui revient régulièrement dans l'actualité, dans le débat public, qui sensibilise depuis longtemps les spécialistes, les chercheurs en santé publique et qui commence, on peut le dire, à toucher un petit peu plus les citoyens, un petit peu plus nombreux, peut-être plus conscients aussi des dangers qui se cachent dans leurs assiettes. Même si, on va le découvrir, la route est encore longue. Alors dans cette année écoulée, les inquiétudes du public et des services de santé ont été à nouveau, on peut le dire, avivées. Notamment suite à des études sur le taux de pesticides dans les pommes ou encore dans les salades. Et puis il y a eu ce fameux rapport en octobre dernier, un rapport d'un service de l'Organisation mondiale de la santé qui déclarait cancérogène la surconsommation de viande rouge. Alors, cancer, obésité, maladies cardiovasculaires, diabète, surconsommation de viande rouge, ravage des pesticides et autres produits chimiques, est-il encore possible de manger sainement, de bien manger? C'est la question que nous avons posée et donc le débat est ouvert avec nos invités, Chantal Julia, qui est médecin épidémiologiste, membre de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle. Elle est également praticien hospitalier à l'Université Paris 13, Hôpital Avicenne, où elle est maître de conférence des universités. À ma droite, Serge Herberg, épidémiologiste de la nutrition, professeur à la faculté de médecine Paris 13, département de santé publique, concepteur et président du programme national nutrition santé, on va grandement en parler aujourd'hui, et directeur de l'unité de recherche en épidémiologie nutritionnelle, et donc vous êtes à l'origine du précepte 5 fruits et légumes par jour et 30 minutes d'activité physique par jour. Bruno Parmentier, vous êtes ingénieur et économiste, auteur de plusieurs ouvrages, dont « Nourrir l'humanité », paru à la Découverte, « Faim zéro », toujours paru à la Découverte, et puis « Manger tous et bien », édité au Seuil. Et Perico Legas, vous êtes rédacteur en chef à Marianne, journaliste spécialiste des questions alimentaires, et donc un livre qui va paraître bientôt, qui va intéresser du monde, donc à paraître en mars au CERF, c'est « À table citoyen ». Alors, avant de commencer ce débat qui pourrait nous occuper toute la semaine, on pourrait rester là tous ensemble, je vous le propose, si vous êtes d'accord, on peut déjà établir un état des lieux, c'est-à-dire quelles sont les maladies graves pour lesquelles le lien est établi entre alimentation et santé. Professeur Herberg.
Oui, bien sûr, c'est une question importante au départ. Alors, c'est vrai que quand on regarde l'histoire de nos civilisations, pendant très longtemps, l'alimentation et la santé étaient reconnues simplement par le fait qu'on manquait d'aliments et on avait des maladies de carence. Le scorbut, le beriberi, le kwashiorkor, toutes ces maladies très importantes qui ont disparu des pays industrialisés, même si elles restent encore de façon combien dramatique dans certains pays en voie de développement. Mais aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est que l'alimentation est reconnu comme un déterminant du risque de très nombreuses maladies chroniques, qui sont les grands enjeux de santé publique auxquels nous sommes confrontés en France comme dans tous les pays industrialisés. Les cancers, 365 000 nouveaux cancers par an. Les maladies cardiovasculaires, 30% des décès en France sont liés aux maladies cardiovasculaires. Bien sûr, l'obésité, 17% de la population, surpoids et obésité chez enfants, 17 à 18%, sachant qu'on a triplé en 15 ans la fréquence du surpoids et de l'obésité chez l'enfant. Le diabète, 4% de diabétiques en France, l'hypertension artérielle, les troubles de la minéralisation osseuse. Donc, on voit aujourd'hui que l'alimentation peut intervenir comme un facteur de risque ou de protection vis-à-vis des grandes maladies que l'on connaît, qui sont des maladies multifactorielles, où il y a des facteurs génétiques, biologiques, environnementaux, mais dans lesquels on sait que l'alimentation joue un rôle, et c'est un facteur sur lequel on est capable d'agir. On ne choisit pas son grand-père ou sa grand-mère, on ne choisit pas ses gènes, mais le contenu de son assiette ou son mode de vie en rapport avec la nutrition, on est capable individuellement, collectivement d'agir.
Eric Olegas, sur ce thème-là, donc, vous êtes d'accord avec ce lien établi ?
Si ce n'est que les phénomènes sont exponentiels et qu'ils s'aggravent, et que chaque jour, le système ne se corrigeant pas, génère et apporte de nouvelles formes de maladies par un comportement consumériste négatif. Donc, bien sûr, il faut faire l'inventaire et le bilan pour savoir où on en est, et déterminer immédiatement quelles seront les mesures à prendre pour pouvoir enrayer ce phénomène. Je pense qu'il y a d'autres maladies que celles référencées qui sont consécutives à une surconsommation elle-même issue d'une surproduction, et que plus on pourra entrer dans le détail biologique et médical des pathologies constatées, plus on verra que les effets de la malbouffe, comme on l'appelle, sont plus négatifs et encore plus graves. Là, on a des scientifiques qui s'en tiennent aux faits scientifiques, et c'est très bien. Mais on suppose, bien entendu, que les effets secondaires de ces phénomènes sont encore plus néfastes qu'on ne le pense.
Chantal Julia.
Oui, pour revenir sur la question de quelles maladies sont en lien avec la nutrition, effectivement, historiquement, les maladies qu'on a le plus connues, c'était les maladies dites de carence. Actuellement, dans le monde, l'OMS constate que la somme des maladies liées à la malnutrition est en fait en cours de réduction par rapport aux maladies liées à l'excès. C'est-à-dire que bientôt, dans le monde, même dans les pays en voie de développement, au total, il y aura plus de personnes qui souffriront de maladies d'excès liées à la nutrition que de maladies de carence.
Bruno Parmentier.
Oui, il faut quand même prendre du recul. En 1789, l'espérance de vie, c'est 28 ans dans ce pays. En 45, l'espérance de vie, c'est 60 ans pour les hommes, 63 et 70. Aujourd'hui, c'est plus que 80. Alors, c'est grâce aussi aux médecins, c'est grâce à l'eau potable, c'est grâce, etc. Enfin, on gagne, sauf cette année, on gagne 4 mois d'espérance de vie tous les ans. Alors, il y en a, quand on nous dit, ça va être épouvantable, on va tous mourir, etc., avec ce qu'on mange, bon, lentement, quand même, voilà. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on devient... On devient très exigeant parce qu'on meurt beaucoup plus vieux et donc on veut mourir en bonne santé. Et donc il y a aussi beaucoup de maladies qu'on découvre maintenant qui n'existaient pas avant. Et puis, ma génération, quand on était jeune, tous les pesticides qui étaient sur nos champs sont interdits maintenant. On les a tous mangés, ils ont tous été interdits tellement ils étaient dangereux. Et puis à ce moment-là, il y avait les cheminées, les usines n'étaient pas là-bas, et puis le tabac, on fumait partout. Donc, on a aussi absorbé énormément de produits chimiques, et ça n'a pas empêché, quand même, les 4 mois d'espérance de vie de plus tous les ans. Donc, c'est vrai, comme on vit beaucoup plus vieux, maintenant, on a beaucoup plus de dépendance à nos excès. Et donc, l'excès devient quelque chose de très important. Mais néanmoins, quand même, voilà, on vit quand même beaucoup mieux que nos grands-parents. Je suis en bien meilleure santé que mes deux grands-parents au même âge.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer les excès ? Peut-être non. Pas, Bruno Parmentier, ça c'est vrai. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on dépiste plus de cancers, par exemple, on les soigne mieux également, mais il y a un état des lieux qui peut en tout cas susciter le débat. Pierre Collégas ?
Oui, pendant des années, les scientifiques qui lançaient l'alarme en disant là, pour l'instant, la progression de la vie, la longévité est un acte, mais ça peut s'inverser. Tous les scientifiques disent c'est impossible. En aucun cas, la mauvaise alimentation et l'alimentation dans les excès ne pourra provoquer d'inversement de l'espérance de vie. Alors là, c'est un fait, c'est une réalité. Là, vous avez l'air de dire, c'est juste une petite anecdote, ça va repartir, comme le chômage, bien sûr. Et vous dites, finalement, c'est une fatalité. Mais le fait qu'il y ait une inversion de la vie Pour ces raisons-là, c'est pas une fatalité, c'est pas un phénomène naturel, professeur. C'est un phénomène qui a été prémédité, construit par les êtres humains. Donc c'est catastrophique ce que vous dites. C'est très alarmant. Vous êtes en train de dire, il y a un peu de casse parce que faut la croissance, on est obligé de surproduire pour surconsommer, donc il y a un peu de casse, mais dans l'ensemble par rapport à ce que vivez, oui, en termes de technologie, en termes de santé générale, bien sûr. Louis XIV était mieux que peut-être que le Moyen-Âge et le XIXe siècle était mieux que le Premier Empire. Nous sommes dans une progression. Mais cette croissance qui tue, à un moment donné, on ne peut pas se contenter de dire « ça va très bien, il y a des petits accidents, c'est pas grave ». On sait aujourd'hui que c'est absolument catastrophique. Vous avez l'air de dire « c'est pas grave, ça va s'arranger ». Je ne pense pas du tout que ça va s'arranger. Et si pour la première fois cette année, on a une inversion d'espérance de vie, c'est que cette fois-ci, les cris d'alarme qui n'ont pas été écoutés doivent être entendus et pris en considération.
Bruno Parmentier, vous voulez répondre et puis ensuite
non,
le professeur
Herberg. Non, mais attendez, je dis pas que c'est pas grave. Je dis qu'on est responsable de ses actes. Mais je dis par exemple que il y a deux produits agricoles qui tuent vraiment, seulement deux. Le tabac, 79 000 morts, l'alcool, 49 000. Alors, quand même, les deux sont des choix. Voilà, quand on sait que chaque cigarette, c'est à peu près 11 minutes de vie de moins, c'est des choix. Donc, dans la nourriture, il y a aussi des choix. Mais à partir du moment où on admet, quand même dans nos sociétés, enfin, c'est quand même pas rien, 79 000 morts par le tabac, 49 000 par l'alcool, bon, c'est vrai qu'il faut quand même revisiter. On est libre de choisir sa vie et eh ben, on meurt avec grâce à la vie qu'on a faite. Et donc notamment, est-ce qu'on a bu, est-ce qu'on a fumé et qu'est-ce qu'on a mangé?
Juste un mot, monsieur. Après, le tabac et l'alcool, c'est des choix délibérés dont nous prenons la responsabilité. Ça, on assume. Je vous parle des morts par des empoisonnements et des toxicités dues à des pesticides.
Aux pesticides, les insecticides.
N'est pas informé. Voilà, ça, c'est très grave. Et ça en tue autant que le tabac et l'alcool et peut-être plus. Alors, nous comparons que ce qui est comparable.
Professeur Herberg, c'est ce que je disais au début de l'émission, c'est qu'effectivement, dans ces débats qui suscitent polémiques et puis agitation, il y a quand même ces questions-là, c'est-à-dire, bien sûr, manger bien, sainement, il faut qu'on se pose la question, c'est quoi manger bien? Parce que acheter une salade, acheter des pommes, où on nous conseille d'enlever non seulement la peau sur les pommes, mais jusqu'à un centimètre, c'est qu'aujourd'hui, on est aussi dans une société dans laquelle on finit par ne plus tout maîtriser non plus.
Oui, c'était un peu le sens de mon intervention, mais, père Collégas, on a déjà parlé. Je crois qu'on n'est pas complètement indépendant d'un environnement dans lequel on est. Indépendamment même des aspects toxiques. Aujourd'hui, le marketing qui vous pousse à consommer, l'accessibilité économique qui rend difficile pour certaines populations l'accès à des aliments de bonne qualité nutritionnelle, contribue à déséquilibrer la balance nutritionnelle et augmente le risque de maladie. Bien sûr qu'on meurt plus tard aujourd'hui qu'avant. D'abord, vous l'avez dit, monsieur Elias, il y a une inversion qui est en train de se programmé. Aux États-Unis, on considère que si on continue au même rythme, la génération en effet future vivra moins longtemps que ses parents, ce qui est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Puis, il faut relativiser la mortalité, parce que la mortalité, bien sûr, on est tous appelés à mourir un jour. Beaucoup de progrès ont lieu dans la prise en charge des maladies, mais si on regarde dans les pays industrialisés, notamment en France, la mortalité prématurée avant 65 ans, celle qui est évitable, celle sur laquelle les facteurs d'environnement jouent fort, on a une mortalité prématurée qui n'est pas acceptable par son importance. Et on sait qu'en améliorant l'alimentation, en améliorant l'activité physique, les modes de vie, bien sûr le tabac, l'alcool, on est bien sûr tout à fait d'accord, on peut avoir un impact extrêmement fort pour réduire le risque de maladie et notamment cette fameuse mortalité prématurée et ces maladies qui ont un coût humain, social et économique en dehors de la mortalité totale qui sont extrêmement importantes et qui doivent nécessiter une prise en charge au niveau individuel et collectif.
Alors, je disais, c'est quoi bien manger? Parce que vous préconisez 5 fruits et légumes par jour et là, on vient de comprendre que peut-être pas n'importe quel fruit, n'importe quel légume. Il faut peut-être nous éclairer. Est-ce que aujourd'hui, bien manger, ça passe par des circuits particuliers?
Alors, tout dépend ce qu'on met derrière bien manger. Alors, bien manger, pour avoir un état de santé optimum, pour réduire le risque de maladie, pour augmenter la protection tout en associant le plaisir, il faut se rappeler aussi que manger, c'est couvrir des besoins biologiques, mais pas seulement, c'est le plaisir, la convivialité, le partage, la culture, la tradition. Eh bien, du côté des nutritionnistes, des scientifiques, on a des travaux qui permettent aujourd'hui de dire que certains comportements alimentaires, et ce sont ceux que vous connaissez tous au travers des messages sanitaires qui sont véhiculés, alors au moins 5 fruits et légumes par jour en est un, mais il y a limiter sa consommation de sel, éviter de manger trop gras, trop sucré, faire de l'activité physique, manger des produits céréaliers complets, manger du poisson deux fois par semaine. On a maintenant un certain nombre d'éléments qui sont considérés comme pouvant être relayés parce que s'appuyant sur des travaux scientifiques. Donc ça, c'est des, dans l'état actuel des connaissances, des éléments d'information suffisamment forts pour donner cette information. Le problème n'est pas tant d'informer et d'éduquer, parce que ça, je crois qu'à peu près aujourd'hui, 80-90% de la population connaît les recommandations.
Je ne suis pas sûre de pouvoir affirmer ça. Moi, j'ai le sentiment quand même, professeur Herbert, que la population n'est pas forcément informée sur cette nécessité ou comment bien manger.
Alors, ce que je veux dire, c'est que dans les études, et elles sont nombreuses, qui interviewent la population sur la capacité de répéter les messages sanitaires, ils les connaissent bien. Tout le monde sait que manger gras, sucré, salé n'est pas bon pour la santé. Au moins 5 fruits et légumes par jour, c'est devenu un slogan, même repris par les humoristes, les publicités détournées, etc. Donc,
on les entend, on les connaît, mais est-ce qu'on les applique?
Alors voilà, le problème n'est pas maintenant aujourd'hui d'informer, d'éduquer, de communiquer, c'est comment mettre en pratique. Et c'est là que la responsabilité du consommateur n'est plus suffisante. C'est si les fruits et légumes sont inaccessibles, si les produits sont trop gras, trop sucrés, trop salés, si on n'est pas informé sur la qualité nutritionnelle des aliments, s'il y a un marketing qui pousse à consommer des aliments, nos enfants mangent des aliments de moins en moins favorables pour leur santé, eh bien, la difficulté de mettre en pratique, là, elle existe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos études, on trouve qu'à peu près 90% de la population connaît au moins 5 fruits et légumes par jour. Il y en a à peu près 45% de la population française qui consomme les 5 fruits et légumes par jour. Et si on regarde les populations les plus défavorisées, dans les structures, par exemple, d'aide alimentaire, les interviews qui sont faites montrent qu'il n'y a que 6% de la population qui les consomme, ces 5 fruits et légumes par jour. Et pourtant, ils savent aussi bien que les autres qu'il faut en manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Mais l'accessibilité, la difficulté de traduire la connaissance en réalisation pratique est notre challenge aujourd'hui. Et c'est plus l'individu qui est seulement concerné, c'est notre société qui rend parfois difficile la mise en pratique pour des larges fractions de population de ces recommandations.
Alors restons un instant sur ces aliments quand même, pour bien les identifier. Vous avez cité les céréales complètes, bon, il y a les fruits rouges, légumes secs, etc. Il y a, Chantal Julia, toute une liste qu'on peut trouver, par exemple, face au cancer. On a identifié des aliments qui ont des vertus antioxydantes. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que oui, le curcuma, les grenades, le gingembre, le thé vert, les brocolis, etc., doivent rentrer dans l'alimentation par précaution, par anticipation?
Alors, depuis toujours, on a toujours cherché l'aliment miracle qui allait nous sauver de la maladie, du cancer, de la grippe, de toutes les maladies du monde. L'aliment miracle n'existe pas. Il y a un comportement alimentaire général qui favorise la bonne santé d'une façon générale, mais il n'existe pas un aliment qui, parce que vous le consommez une fois par jour, va vous sauver. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, entre autres par l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle, sur l'effet des supplémentations en antioxydants, justement, avec cette idée que si on prend une pilule miracle, on va effectivement éviter les maladies. Ça montre que ça ne permet pas plus d'éviter les maladies qu'une alimentation équilibrée. Et l'alimentation équilibrée, encore une fois, c'est le comportement général dont on parle et dont les messages sanitaires parlent, qui sont effectivement... Alors celui qu'on connaît le mieux, c'est les 5 fruits et légumes par jour. Celui-là, c'est tellement acté que... N'importe qui est capable de le ressortir. Les autres sont moins bien connus, c'est vrai. La question des produits complets, le poisson 2 fois par semaine, ces messages-là sont moins bien connus. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui font pas encore partie des connaissances globales nutritionnelles qu'il y a dans la population. Et après, même pour ceux qui sont connus, effectivement, la difficulté, c'est de le mettre en pratique parce que, par exemple, quand on dit à quelqu'un il faut manger 5 fruits et légumes par jour, la personne s'imagine tout de suite que ce sont 5 fruits et légumes frais. Et donc tout de suite arrive l'idée « Ah, c'est cher, je vais pas y arriver ». Alors que 5 fruits et légumes, c'est dans toutes leurs formes. C'est frais, certes, mais c'est aussi en conserve, c'est surgelé, ce qui permet d'avoir une variété plus importante, finalement, dans l'accessibilité à ces produits. Et par ailleurs, après, les autres questions qui reviennent, mais ça, c'est plutôt les enfants qui les posent, c'est est-ce que 5 petits pois, ça compte? Est-ce que 5 fraises, c'est bon, maman? Ce genre de choses. Donc, il y a aussi une certaine connaissance, peut-être, encore à affiner sur un certain nombre de messages pour permettre aux gens de pouvoir les mettre en pratique facilement.
Perico Legas, je parlais aussi quand même tout à l'heure, et on l'a évoqué, hein, des pesticides, de ces produits chimiques, même si on mange 5 fruits et légumes par jour, est-ce que, par exemple, la question du bio, voilà, aujourd'hui, il faut la poser, est-ce qu'il vaut mieux partir sur ces terrains-là aussi, ou les circuits courts, en tout cas
Je veux juste revenir un instant sur l'intervention précédente. Allez-y. On est dans le syndrome de l'alicament. On pense qu'en se gavant de curcuma, de brocoli et d'ail, on va pouvoir compenser le fait que pour le reste, on continue à très mal se comporter alimentairement. Il n'y a bénéfice sur ces aliments dont les caractères antioxydants sont avérés que si on a d'abord une nourriture équilibrée. Et là, si effectivement on insiste un petit peu plus sur ces aliments-là, on a une probabilité à la rigueur de prévention seulement, de probabilité d'éviter ou de contourner une maladie grave. Mais ce n'est pas un médicament, c'est-à-dire c'est toujours du préventif, ce n'est jamais du curatif. Et il est évident que c'est d'abord dans l'établissement d'un régime alimentaire adapté à notre individu, à notre métabolisme. On a tous un cas de figure différent. Et en général, nos organismes et nos corps nous disent un petit peu ce qui est bon pour nous. Ensuite, on a suffisamment d'informations pour savoir en tout cas de quoi ne pas abuser. Avant de savoir de quoi il faut privilégier, en tout cas nous savons de quoi ne pas abuser, c'est factuel, c'est évident. Et ensuite, on peut effectivement, si on a la possibilité d'accéder à certains aliments, sans en abuser non plus, parce qu'il peut y avoir un excès, y compris d'un aliment sain, qui peut provoquer un dérèglement, à ce moment-là, on peut trouver une nourriture qui, en principe, nous permettrait de vivre naturellement. Ça n'évitera jamais la maladie ni l'accident de santé. Il n'y a qu'un problème, c'est qu'il y a le lobby pharmaceutique, il est totalement furieux. Lui, plus il y a de malbouffe et plus il y a de malades, plus il y a de clients, plus il vend de médicaments. Donc c'est évidemment que c'est pas du côté du lobby pharmaceutique qu'il faut attendre un soutien. C'est un paradoxe. Ces gens qui sont censés nous sauver et prolonger notre vie sont ceux qui aujourd'hui contribuent le plus à nous empoisonner. Puisque ce qu'ils disent au lobby industriel et à la grande distribution, c'est surtout ne changez rien, vous remplissez mes pharmacies et vous videz mes stocks de médicaments.
Alors, la question du bio.
C'est-à-dire, moi je voudrais dire, on peut gloser indéfiniment sur tel aliment est bon, tel aliment est pas bon. C'est quelque part, raisonner en termes de molécules, c'est une manière. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Se nourrir, c'est d'abord une activité sociale. Alors moi, peut-être je vais vous faire des recommandations autres. La première chose pour bien manger, elle est très simple, ça coûte rien, ne jamais manger devant la télé. Jamais manger devant la télé. Bien. Deuxièmement, ne jamais manger tout seul. Toujours assis, tranquillement, en refaisant le monde, en passant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Alors vous êtes veuve, et ben c'est le moment de se faire des copines. Je veux dire, il y a...
Ou des copains.
Donc ça c'est très important. Manger, hein, comme mangent les Américains tout seul debout devant son frigidaire, c'est absolument une catastrophe. Faut regarder l'obésité, c'est notre côté très primitif. La sensation de satiété, elle met 20 minutes pour remonter au cerveau. Chaque fois qu'on mange en moins de 20 minutes, ou chaque fois qu'on mange une pizza en regardant la télé, c'est foutu. Bon, ensuite, il faut manger les plats de nos grands-parents. Les plats avec lesquels on a gagné les guerres. Je veux dire... Nous, on n'a pas gagné les guerres avec les sushis et avec le couscous, on a gagné les guerres avec le bœuf carotte, etc. Alors, vous aimez le bœuf carotte, c'est très simple. Maintenant, il faut passer aux carottes au bœuf. Plus de carottes et moins de bœuf. Et donc, finalement, on s'aperçoit qu'ensuite, à la fin, faut manger bio, local, équitable, évidemment. Et puis ensuite, c'est moins, mais ça ne veut pas dire pas. Moins de sel, moins de sucre, moins de matière grasse, moins de viande, moins de lait. On en mange beaucoup trop. Alors, quoi plus? Plus de céréales. Si possible complète, plus de légumineuses, hein, un peu de protéines végétales, ça peut pas faire de mal, plus de fruits et de légumes de saison, si possible bio, hein, voilà, et plus de diversité. Et donc, en fait, c'est d'abord une activité sociale. Et d'ailleurs, on voit par exemple l'obésité. L'obésité, c'est la maladie des pauvres des pays riches et des riches des pays pauvres. C'est d'abord une sélection sociale. C'est pas d'abord un problème de molécules. Et donc, finalement, la France, si quelque part on mange pas si mal, parce qu'on continue à s'asseoir tranquillement pour manger trois quarts d'heure, une heure, en famille, dans la joie et la bonne humeur le dimanche. Il y a très peu de gens qui font ça.
C'est
et donc surtout qui font ça. Et quand on fait ça, du coup, on a tendance à faire un peu plus de cuisine. Et puis ensuite, des choses simples. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a besoin de manger de la lasagne au cheval roumain le soir quand on a mangé de la viande à midi? Et donc, quelque part, il faut quand même dire des choses assez simples. Il n'y a rien de mieux qu'une soupe de légumes le soir. Rien. Et en plus, ça coûte pas cher. Donc finalement, c'est pas obligé de dépenser beaucoup d'argent. C'est d'abord un phénomène culturel. Alors, je comprends que ces messieurs dames médecins, ils vous raisonnent beaucoup plus techniquement, mais ça va avec. Je veux dire, il faut avoir envie de manger bien.
Perico Legas et puis Serge Hirschberg.
Comportement social et culturel, on approuve tous. Pourquoi on en est arrivé là? Ce comportement, il n'est pas inné. C'est parce qu'on nous a poussé à consommer comme ça. Parce qu'on nous a poussé. Ça fait 40 ans qu'on nous dit consacrer le moins de temps et d'argent possible. Je parle des institutions commerciales et médiatiques. Consacrer le moins de temps et d'argent possible à votre alimentation. Et ce temps-là, consacrez-le à passer devant la télévision où vous prendrez des consignes pour ingurgiter encore plus de malbouffe. Et la vérité, elle est là. Donc c'est un problème éducatif. Ça, et on se bat, nous sommes un certain nombre pour se battre à l'école, s'il y a l'instruction civique que l'on demande pour apprendre à vivre ensemble dans notre diversité en respectant nos institutions, nos systèmes économiques et politiques. Est-ce qu'on peut avoir une instruction alimentaire, les classes du goût, l'éveil du goût mis en place par Jacques Puiset en 75, ça fait quand même 40 ans, où on sait aujourd'hui que les plus touchés, ce sont les enfants, les adolescents. Souvenez-vous de l'étude de 2013, 87% des 12-17 ans ne faisaient pas la différence entre une courgette et un poireau, entre un navet et une carotte, ne savaient pas que le yaourt venait d'un produit qui s'appelle le lait, qui venait de la vache, et 91% ne savaient pas que la tranche de jambon venait d'un animal qui s'appelle le cochon, le fameux syndrome du poisson pané avec les yeux dans les coins. Aujourd'hui, la majorité de l'adolescence urbaine n'est pas informée sur la provenance et l'origine des produits et ne connaît rien en termes de nutrition. Donc il est temps à un moment donné que les pouvoirs publics, bien sûr, le corps scientifique, les médias et les citoyens consommateurs, il y a une responsabilité politique. Nous sommes dans un pays comme la France où jamais le consommateur n'a eu autant d'informations sur le packaging et le conditionnement des aliments pour savoir si c'est sain ou pas. Le professeur Hirschberg veut même nous aider en nous mettant des couleurs pour que l'on puisse repérer en fonction des couleurs s'il y a un taux de dangerosité, c'est-à-dire si c'est rouge, on en mange un tout petit peu moins, orange un petit peu, et le vert, on peut y aller franco. Mais évidemment, vous imaginez bien que les gens qui vendent ces produits et qui gagnent des fortunes avec les produits avec sur lesquels c'est marqué rouge, ils veulent pas du professeur Hirschberg. Ils veulent continuer à pouvoir débiter leurs produits par milliards de tonnes. Non. Alors, il y a des solutions. Elles sont éducatives, elles sont politiques, elles sont scientifiques, elles sont médiatiques et elles sont citoyennes. Je ne peux pas imaginer, dans un pays où il y a 66 millions d'habitants au dernier recensement, 66 millions d'habitants, nous sommes dans une partie du monde où l'acte alimentaire est formulé 3 fois par jour. Ça fait 198 millions d'actes alimentaires par jour en France. 198 millions. 5 milliards 498 millions d'actes alimentaires par mois en République française. Multiplié par 12, je vous donne pas le chiffre, il est imprononçable. Je ne peux pas croire que si 10% ou 15% de ces milliards d'actes alimentaires sont conscientisés, sont orientés, prennent conscience du danger et changent le comportement, il n'y aura pas une incidence sur la santé, sur l'agriculture, sur l'emploi, sur notre façon de vivre. Je pense que le combat contre la malbouffe est porteur de solutions à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, au-delà de l'alimentaire. Ne serait-ce que redonner vie à notre agriculture, à notre façon de vivre ensemble, et cette façon de consommer aujourd'hui qui détruit notre planète. Parce qu'on a un problème, c'est que la croissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire accélérateur. Quand nous avons cette étude sur la viande cancérogène, c'est comme si je vous disais, une Renault, eh ben à 150 à l'heure, c'est dangereux, et à 200, ça peut être mortel. Oui, mais la voiture n'est pas en cause, c'est l'usage qu'on en fait. Donc cette viande américaine, les médias ont déversé cette information sur une filière, en plus la filière bovine qui était déjà sinistrée. C'est la façon de produire, d'élever la viande et de la consommer dans un pays comme les États-Unis, où effectivement, dans la mesure où on sort des paramètres naturels, la viande devient dangereuse. En France, nous ne sommes pas pour l'heure, on y vient. En France, on a encore le bon sens de dire, une vache est un mammifère herbivore qui doit se nourrir d'herbe. À un moment donné, on a dit, bon, l'herbe, comme on a consacré le bocage à la production laitière, il faut quand même continuer à produire de la viande en quantité suffisante. Donc, puisqu'on n'a plus de pâturage suffisant, on va remplacer par de la céréale qui engraisse la viande, parce que pour vendre la viande, il faut qu'elle soit grasse. Le problème, c'est qu'un jour, la céréale s'est mise à exploser au niveau des tarifs. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les éleveurs bovins? Eh bien, soit ils sont devenus céréaliers, ça tombe bien, il y avait des primes européennes, soit ils ont changé de type d'aliment. Vers quoi on est allé? Vers le soja. Le tourteau de soja, pour le payer pas cher, on l'a pris dans des formules OGM qui viennent d'Argentine et du Brésil. Et aujourd'hui, 88% de la viande française que vous trouvez dans la grande distribution élevée en France, elle est nourrie au tourteau de soja OGM. On vous le dit pas en grand, mais c'est comme ça. Et pour trouver une viande française de qualité aujourd'hui dans un boucher, il vous appelle au téléphone en disant « j'ai un morceau de limousine de Charolaise ou de Normande ». On mange de la viande étrangère ou de la viande industrielle. Et nous arriverons au jour à la situation américaine. Donc, si on change notre comportement de consommation, et si l'on décide de ne pas toujours manger de la mauvaise viande à haute fréquence, d'en manger un peu moins de qualité dont on connaît l'origine, nous changerons beaucoup le problème. Je tiens toujours à mon équation du 18-6-3. Je dispose d'un budget de 18 euros, quels que soient mes revenus. Si je suis très riche, c'est tous les jours. Si je suis moins riche, c'est une fois par semaine. On commence une fois par mois. Mais j'ai un budget de 18 euros pour acheter du fromage ou de la viande. Soit j'achète 6 fois un morceau à 3 euros dégueulasse, un fromage à 3 euros dégueulasse, je m'empoisonne, je fais du mal à l'agriculture, et en plus je ne prends pas de plaisir, soit je décide d'inverser ces 18 euros, et je fais 3 fois un morceau de viande à 6 euros ou un fromage au lait cru à 6 euros. Et le reste du temps, j'ai autre chose, le panier alimentaire est tellement large, j'ai des compensations. Et là, quand j'achète une viande, un morceau de viande à 6 euros ou un fromage à 6 euros, eh bien, je fais du bien à mon pays, à mon économie, à mon agriculture, à mes artisans et à moi. Mais ça, c'est un choix citoyen que l'on peut faire. Avec la même somme, mieux manger, ça coûte plus cher. C'est faux. Mieux manger, ça coûte moins cher parce qu'en plus, les effets secondaires de la valeur négative, une tranche de jambon industriel allemand à 1,10 €, elle a fait un dégât considérable sur la planète, sur l'environnement, sur les eaux, sur le paysage, sur les emplois, sur les hommes et sur la santé. Alors on économise 80 centimes qu'on va payer 10 fois plus quand on aura un cancer ou qu'on aura l'obésité. Voilà.
Beaucoup de thèmes abordés.
Et ensuite, je parlerai du bio. J'ai juste un mot sur le bio et je passe la parole.
Après, on va revenir au bio parce que, effectivement, Perico Legas, vous avez abordé énormément de choses et on va revenir sur certains points. Là, je vais m'attarder juste sur cette question de la viande quand même. Parce que ce rapport de l'OMS, fin octobre 2015, disait, par rapport à la viande que, donc, enfin, c'était un rapport du CIRC, le Centre International de Recherche sur le Cancer qui dépend de l'OMS. Et donc, qui jugeait qu'une surconsommation de viande et de charcuterie serait responsable dans le monde, et par an de 84 000 décès, c'est-à-dire 34 000 pour de la viande transformée, voilà, consommation de viande transformée, 50 000 pour de la consommation, surconsommation de viande rouge. Professeur Herberg ou docteur Julia, dites-nous, éclairez-nous un petit peu, parce que c'est vrai que Perico Legas a parlé de cette question de la viande, ces vaches, qui devraient manger de l'herbe et pas autre chose. En France, où en est-on? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce rapport-là, professeur?
Alors, d'abord, ce rapport n'est pas nouveauté en termes d'information, il reprend déjà et réactualise des travaux scientifiques qui ont été synthétisés depuis 2007 par le Fonds mondial de recherche sur le cancer et qui a analysé plusieurs milliers d'études sur les relations nutrition-cancer, dont des études qui ont permis de classer un certain nombre d'aliments sur leurs effets protecteurs ou au contraire facteurs de risque. Et c'est vrai que dès 2009, le Fonds mondial de recherche sur le cancer annonçait que l'ensemble des études disponibles permettait de considérer qu'une consommation importante de viande, et quand on parle de viande, c'est 500 grammes par semaine, c'est pas négligeable. C'est-à-dire dire que manger moins de 500 grammes par semaine est un sacrifice serait une grossière erreur. 500 grammes, c'est 5 steaks, c'est donc quand même quelque chose d'important. Donc, l'Organisation mondiale de la santé a donc en effet montré que au-delà de 500 grammes par semaine de viande rouge, il y avait un risque probable d'augmentation du risque de certains cancers, les cancers du côlon et du rectum. Et pour la charcuterie, le risque était encore plus convaincant, dans le sens que les grandes études épidémiologiques qui ont été réalisées montraient que les consommateurs, plutôt dans les parties les plus élevées, étaient associés à un risque, là aussi, de cancer colorectal beaucoup plus important. Personne n'a d'ailleurs dit qu'il ne fallait plus du tout manger de viande ou plus du tout de charcuterie, mais pour reprendre ce qui a été dit, peut-être amener le consommateur à réfléchir, à améliorer dans ses choix, à la fois diminuer la quantité, améliorer la qualité. Donc il n'y a absolument pas une recommandation de prohibition, d'interdiction, mais les bases scientifiques permettent vraiment de considérer qu'il y a une association entre ces consommations excessives, viande rouge, charcuterie, et le risque de ces cancers. Donc c'est l'effet scientifique, comme dans d'autres domaines, pour les fruits et légumes, il y a l'effet protecteur ou le sel, des effets également négatifs qui ont déjà été largement démontrés.
Bruno Parmentier, alors sur cette question-là, il y a... Oui, Chantal Julien.
Juste pour compléter, à aucun moment les travaux scientifiques ne permettent de dire que c'est la viande issue de telle filière ou de telle autre qui est responsable. C'est la consommation de viande en général. On dispose d'études épidémiologiques qui sont déjà très difficiles à mener, où on demande aux gens exactement tout ce qu'ils ont consommé dans une journée, plusieurs journées dans l'année. Du coup, on ne leur demande pas non plus où ils ont acheté leur viande, d'où elle vient, comment est-ce qu'ils l'ont cuisinée. Parce qu'il y a énormément de questions qui se posent sur ce lien. D'abord, effectivement, y a-t-il un effet de la filière ? Ça, on l'a pas encore déterminé. Ensuite, y a-t-il un effet de la façon dont on la cuisine? Puisqu'il y a certaines formes de cuisson avec des hautes températures qui dégradent davantage les composantes de la viande, mais ça non plus, ça n'a pas pu être quantifié. Qu'est-ce qui revient à la filière, qu'est-ce qui revient au mode de cuisson? L'OMS dit juste la surconsommation de viande en général. Il y a énormément d'éléments sur lesquels on n'est pas capable actuellement de quantifier réellement la part qui revient dans les maladies.
Bruno Parmentier, de toute façon, aujourd'hui, cette situation des pays développés avec une surproduction pour une surconsommation ne tient plus de toute manière dans le monde d'aujourd'hui.
Oui, parce que à la fin des fins, c'est quand même nous qui achetons et qui définissons le menu. Hein, bon, surtout nous intellectuels, peut-être moins. Bon, alors ceci dit. Il faut quand même prendre conscience que quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec et on achète la santé qui va avec. Alors la viande, par exemple, dans les années 20, 25 kilos de viande. Dans les années 50, 45 kilos de viande. Aujourd'hui, 85. Le lait, pareil. Aujourd'hui, c'est à peu près 90 kilos de lait, 85 kilos de viande par tête de pipe. Alors, c'est vrai que quand on dit ça, c'est un peu compliqué. Alors, allons-y. Dans une vie, un Français mange 7 bœufs, plus 33 cochons, 9 chèvres, 1300 poulets, 20 000 œufs, 32 000 litres de lait. Voilà, ça la gastronomie française. C'est beaucoup quand même, non? Ben oui, c'est de l'excès. Moi, grand-père n'en mangeait que 4. Donc moi, le cinquième bœuf, il me va. Bon, mais au sixième bœuf, tout le monde le sait, les artères commencent à s'encrasser. Au septième bœuf, tout se déglingue. Donc revenons à des choses plus raisonnables. Je veux dire, on peut manger avec appétit si on a droit à un quota de 5 bœufs, 25 cochons, 800 poulets pour une vie. Mais allons-y par exemple. Avant, les fruits et les légumes, combien vous en voulez? 1 kilo. Alors maintenant, on choisit ses pommes une par une. Puis maintenant, on choisit ses prunes une par une. On en arrive à choisir ses cerises une par une. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Quel est le message qu'on donne à l'arboriculteur? Je ne veux pas qu'une seule mouche se soit posée sur ma cerise. Hein. Et donc, on achète du pesticide. Parce que si vous voulez absolument un produit sans qu'une seule mouche, eh ben c'est 3 pesticides de plus. Donc quand on achète comme ça, on achète du pesticide. Et quand on, quelque part, on dit les carottes, c'est droit. Mais vous savez que quand on plante une carotte, elle trouve un caillou, elle est tordue, c'est pas pour ça qu'elle est plus mauvaise. Est-ce que vous envoyez des carottes, vous, tordues dans votre supermarché? Vous vous rendez compte que toutes les carottes tordues, elles restent dans le champ? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller voir le chef de son rayon fruits et légumes en disant « Mais vous savez, moi, ça fait 15 ans que j'achète chez vous, vous me connaissez. J'ai oublié de vous dire un truc, là. Je suis un peu particulier. J'aime les fruits moches. Vous pourriez pas me mettre quelques fruits moches de temps en temps parce que moi, je les achèterais. C'est un autre rapport à l'alimentation, c'est un autre rapport à l'agriculture. Et donc, c'est vrai, on se fait manipuler, c'est vrai. Mais à la fin des fins, quand même, soyons raisonnables, c'est nous qui choisissons ce qu'on mange. Et donc, quand on choisit ce qu'on mange, on choisit le monde qui va avec et on choisit sa santé.
C'était une très belle démonstration de manger, c'est voté. Vous avez une parfaite définition. J'ai l'air de rouspéter depuis le début. Hein. Pourtant, je suis quelqu'un d'adorable et très... Mais ce sont des
thèmes passionnés. C'est la passion.
Et là, le bio, je suis en colère parce que chaque fois que je vois une étude publiée par mes chers confrères sur le bio, j'étais toujours sur ce dont on se fiche. Et on vous dit le bio, alors l'étude, la dernière étude, pas d'avantage nutritionnel, pas d'avantage gustatif, pas d'avantage sur la... Mais le bio, ce n'est pas ça. Le bio n'est pas là pour être bon, le bio est là pour être bien. Donc le bio, il est quoi? Le bio, il a 2 vertus, il protège l'environnement, c'est-à-dire notre planète, il ne l'abîme pas, il ne la salit pas, et lorsque nous l'ingurgitons, il est censé ne pas faire de mal à d'autres organismes. C'est sa seule vertu. Je trouve que c'est immense, que c'est énorme. Il y a peut-être un surcoût, il y a peut-être un problème économique. Si la demande était généralisée, évidemment, ça serait moins cher. Le président de la FAO expliquait l'autre jour que si 33% des terres en friche, aujourd'hui en friche sur la planète, étaient remises en culture, eh bien, on pourrait nourrir l'humanité en bio à un tarif tout à fait acceptable. Donc là aussi, on est dans la volonté politique. En tout cas, ne demandons pas au bio ce qui n'est pas sa fonction et n'accusons pas le bio de ne pas fournir les prestations pour lesquelles il n'est pas fait.
Chantal Julia, alors c'est vrai que le bio n'a pas vocation à offrir des beaux légumes, de jolis fruits, etc. Et en même temps, cette vocation-là, on entend beaucoup de critiques aussi. Et maintenant, on parle du bon bio et du mauvais bio. On en est là quand même.
Tout dépend des législations de certification. Nous avons en France, parce que nous sommes un pays où ce sont des valeurs qui sont extrêmement surveillées, AB et Ecocert sont des organismes qui certifient le bio, et quand c'est bio, c'est bio. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, un producteur bio à proximité d'un producteur, d'un agriculteur, on dit conventionnel, mais ce n'est pas conventionnel, industriel, si un champ bio est à côté d'un champ de culture industrielle, il va s'en prendre un petit peu, c'est inévitable. On ne peut pas contrôler les vents, on ne peut pas contrôler la circulation des pluies. Mais en France, nous avons une législation où le bio est vraiment fiable. Aujourd'hui, on sait qu'au niveau de la grande distribution et de la Commission européenne, on aimerait bien alléger, on aimerait bien assouplir ces normes. Ça permettrait aux voyous de faire du bio. Mais pour l'instant, en France, ça ne passe pas. Le problème, c'est que la France importe 45% de ses produits bio parce qu'on a tué l'agriculture paysanne. Là aussi, c'est un problème qu'il va falloir soulever à un moment donné.
Chantal Julia.
Moi, je voulais réagir sur un élément, c'est que jusqu'ici, on a tous parlé d'aliments, mais on a parlé surtout d'aliments bruts. On a parlé de la viande, on a parlé des fruits et légumes. Alors ça, ce sont des aliments. Alors certes, un certain nombre d'enfants ne savent pas à quoi ressemble un poireau ou à quoi ressemble une tomate, mais il n'empêche que pour énormément de produits, on est totalement dépossédé de ce que c'est. La majorité des Français font leurs courses dans des grandes et moyennes surfaces. En dehors de la viande et des fruits et légumes qu'on achète encore sous une forme brute, la plupart des autres aliments que nous mangeons sont des aliments transformés. On n'achète pas du blé tel quel. Il y a peut-être les blis qui ressemblent à peu près à ce que c'était au départ, mais la plupart du temps, on va manger des produits qui sont transformés, et en particulier les enfants. Et ce qu'il faut voir, c'est que l'offre alimentaire sur ces produits transformés, c'est beaucoup... beaucoup modifié au cours des années. Si on prend l'exemple des céréales du petit déjeuner, par exemple, qui avant n'existaient même pas dans un petit déjeuner classique, au départ, on a fait des céréales qui étaient pas sucrées, pas salées, c'était de la céréale brute. Après, on a fait de la céréale un peu salée, après, on a fait de la céréale un peu sucrée, et maintenant, on est arrivé à un niveau où on a de la céréale qui est sucrée, et en plus, elle est grasse. C'est-à-dire que maintenant, les céréales qui sont les plus consommées par les enfants, c'est les céréales qui sont fourrées, qui ne ressemblent absolument plus à une céréale, et c'est comme un biscuit, quoi.
C'est du poison.
En tout cas, c'est de l'excès et c'est la route vers l'obésité, certainement. Professeur Serge Arikberg, tout à l'heure, Perico Legas a parlé de ces 5 fameuses couleurs. C'est intéressant parce qu'à ce stade de l'émission, il faut quand même se poser la question s'il y a des solutions. Par où doivent-elles passer et est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle quand même des pouvoirs publics à remplir? Donc concrètement, ces 5 couleurs pour 5 classes de qualité nutritionnelle, vous avez travaillé sur cette proposition pendant des années, vous avez donné un dossier qui est arrivé sur le bureau de la ministre de la Santé il y a quoi?
2 ans.
Il y a deux ans déjà quand même. Et donc vous proposez des repères, ces fameux repères de couleurs, hein, vert, jaune, orange, rose fuchsia et rouge. Donc le vert étant la meilleure qualité en matière de nutrition, et puis le rouge probablement à bannir. Donc bien sûr on a compris pression des producteurs et des industriels, mais les pouvoirs publics là-dedans, en France.
Alors oui, c'est la volonté politique qui est en jeu. Donc cette mesure qui est une des 15 mesures qui avait été proposée par un rapport que j'ai coordonné et remis à la ministre de la Santé il y a 2 ans, proposait des mesures qui, justement, nécessitaient un affichage politique fort de nos ministres, de notre ministre de la Santé.
Le dossier est toujours dans le tiroir de gauche en bas de son bureau, je signale.
Vous y êtes allé, hein?
Oui, bien sûr.
Vous avez tenté de la convaincre. Bon.
Alors, ces mesures, elles essayaient de proposer non seulement de faire ce qui a été dit, sur lequel on est tous d'accord, de l'information, de la communication, il faut éduquer, on est tous d'accord là-dessus. Mais on sait que ça n'est pas suffisant. Il faut qu'on agisse sur l'environnement, c'est-à-dire que par défaut, la qualité nutritionnelle des produits ou l'information qui soit donnée sur les produits permettent vraiment aux consommateurs d'avoir d'un côté une transparence et d'un autre côté une qualité nutritionnelle qui s'améliore. Et parmi les 15 mesures proposées, une visait à avoir un système très simple. Vous êtes tous déjà confrontés à regarder une étiquette sur un produit alimentaire. C'est illisible, c'est incompréhensible, c'est des termes compliqués, des chiffres, c'est absolument barbare. Même en ayant fait des grandes études de nutrition, on a toujours du mal à comprendre et incapable de comparer les produits. Donc ce qu'on a simplement fait avec des collègues au niveau national et international, c'est d'essayer de dire on peut traduire ça sous une forme simple. On synthétise le gras, le sucre, le sel, les calories qu'il y a dans l'aliment et on en fait un score objectif que chacun peut vérifier et on le met sous une forme qui soit simple, intuitive et compréhensible par tous, un logo nutritionnel de couleur dégradé, en effet, du vert au rouge, ou gradé du vert au rouge, qui permettra de pouvoir comparer les produits entre eux, entre des familles d'aliments, mais surtout à l'intérieur d'une même famille d'aliments, parce que Chantal Juillard parlait de la multitude des céréales petit-déjeuner. Il y a 412 marques de céréales petit-déjeuner. Il y a, par exemple, 35 muesli aux pépites de chocolat.
C'est-à-dire, ils ont 500, tous le même nom. Apparemment, 500.
On est à peu près à 500 sur les céréales.
Ah oui, ça va de jour en jour. Il y en a d'autres qui ont dû sortir depuis la dernière fois que j'ai fait les
courses. Ça pousse, ça pousse, il y a du terrain.
Ça pousse très vite. Il y a 35 muesli aux pépites de chocolat. Vous dites, ils ont tous la même composition nutritionnelle. Si vous êtes capable de regarder l'étiquette, et c'est vraiment difficile, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des différences majeures. Si on met les couleurs, il y a des moesli aux pépites de chocolat qui sont verts, d'autres qui sont jaune, d'autres qui sont orange, d'autres qui sont roses et d'autres qui sont quasiment des confiseries, qui sont rouges. Ça, c'est très facile à mettre en place. Donc, cette proposition qui a été faite à la ministre de la Santé a été quand même reprise, puisqu'elle a peut-être rangé le rapport, mais parmi les 15 mesures, elle a repris celle-ci pour la mettre dans la loi de santé qui a été votée, qui a fait beaucoup de polémiques sur d'autres domaines, mais qui a été votée au Parlement au mois de décembre dernier. Le problème, c'est le décret d'application. La loi reprend le principe d'un système d'information nutritionnelle. Mais on s'est heurté à des lobbies industriels extrêmement puissants qui n'ont pas envie de mettre cette transparence et qu'on soit, ce qui est le cas des grands industriels de l'agroalimentaire, préféré qu'il n'y ait rien du tout, ou ce que les distributeurs ont mis en place, c'est une espèce de système alternatif qui contrôle, où là, il n'y a plus de rouge, où c'est beaucoup plus confus et qui permet d'éviter de donner une vraie transparence objective sur la qualité nutritionnelle des aliments pour les consommateurs, avec derrière ça une arrière-pensée. C'est d'un côté, on veut informer le consommateur, lui permettre de comparer les produits entre eux, mais on veut aussi faire pression sur les industriels. S'il y a ces systèmes de couleurs, celui qui a un produit rouge, son muesli aux pépites de chocolat qui est rouge, son concurrent est orange, rose, vert ou jaune, peut-être il aura envie d'améliorer son produit et il y a des marges de manœuvre considérables. Il peut réduire le gras, le sucre et le sel. Donc c'est une mesure simple qui est utile à l'information du consommateur est utile également pour améliorer la qualité nutritionnelle des aliments. Mais on n'est absolument pas sûr que dans le décret qui sortira dans les mois qui viennent, ce soit cette forme claire, transparente, qui a été validée, qui est soutenue par les scientifiques, par les associations de consommateurs, qui soit retenue. Le danger, c'est qu'on a une forme complètement édulcorée, qui n'aura plus de sens et qui échappera réellement à l'objectivité des calculs scientifiques qui sera utile aux consommateurs, mais qui sera contrôlé par les lobbies qui essayent d'empêcher la mise en place de cette mesure.
Bruno Parmentier.
Oui, c'est quand même impressionnant. Moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est quand est-ce qu'on vote ? Et quand est-ce qu'on parle des choses sérieuses avant le vote ? Voilà.
Perico Légas, en tout cas, je crois que tous les deux, Bruno Parmentier et Perico Légas, vous rejoignez sur une demande. C'est on aurait dû demander une COP21 sur les problèmes de l'agriculture et de l'alimentation, parce que le problème, le danger pour demain, il est là.
Mais la COP21... elle vient des méthodes d'agriculture qui font des trous dans le ciel. Je suis étonné que dans cette COP21, il n'y ait pas eu un chapitre alimentation. Ça n'a jamais été prononcé. C'est la première cause de cet accident climatique. C'est les vaches américaines qui pètent et les pollutions...
C'est le quart des gaz à effet de serre.
De 60 000 vaches qui sont concentrées comme les poulets dans des usines de batterie, il y a un effet environnemental catastrophique en termes de pollution. Donc, évidemment, on soutient tous le rapport du professeur Herberg et ses projets. Ce qu'on ne se comprend pas, c'est que dans ce monde, sachant les dégâts auxquels nous sommes confrontés en termes de santé, ça n'ait pas été appliqué il y a 10 ans, il y a 20 ans. Corinne Lepage, j'avais proposé à peu près la même chose au Parlement européen, débouté évidemment, et n'importe quel gouvernement responsable aurait dû le mettre en place. Mais
parce que ça n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire aucun pays n'a mis ça en place.
Alors, ça existe en Grande-Bretagne sous une forme un petit peu plus compliquée de système de ce qu'on appelle le trafic là, les feux tricolores, mais multiples par nutriments. C'est un petit peu plus compliqué. On s'est appuyé sur leur expérience. Mais ça devait être porté au niveau européen. Vous avez raison, monsieur Lagas. Il y a quelques années, c'était porté au niveau européen. Mais il faut savoir que quand même, les grands lobbies ont dépensé 1 milliard d'euros. C'est un chiffre officiel. C'est pas celui que l'on donne. C'est ceux des agences de lobbying au niveau européen pour réussir à bloquer ceci, ce qui a été bloqué au niveau européen, ça a été autorisé si un pays souhaitait le mettre en place, ce qui est le cas de la Grande-Bretagne, et ça a été bloqué uniquement parce que ça venait entraver des intérêts très corporatistes. Et malheureusement, on se retrouve aujourd'hui en France où on a une fenêtre de tir pour essayer de mettre en place un système qui est encore plus performant que même nos collègues anglais disent que, à la lumière de leur expérience, le système qu'on propose en France est plus intéressant. Alors, vous avez rappelé, M. Légas, que manger, c'est voter. Alors, on a essayé de mobiliser la conscience citoyenne. On a appelé à une pétition citoyenne. La Société française de santé publique, un organisme officiel de médecins de santé publique, a lancé, mais on a peu de moyens. Donc, on a eu 25 000 signatures. Si aujourd'hui, il y avait 50 000, 100 000, 200 000 ou 500 000 signatures qui permettaient de dire, nous, consommateurs, on souhaite simplement avoir une transparence, connaître la qualité nutritionnelle des produits, on signe cette pétition pour que les politiques prennent en considération notre demande, on ferait sûrement évoluer les choses. Mais on a réussi à avoir qu'une vingtaine de milliers de signatures.
Évidemment que je soutiens votre démarche et je l'accompagne, et je me bats pour elle. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai eu cette inquiétude, peut-être M. Parmentier va l'avoir avec moi, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont en profiter pour dire, oula, alors on va mettre aussi le carré rouge sur mon entrecôte persillé, mon saucisson de montagne et mon fromage au lait cru. Est-ce que c'est bien le gras et le salé industriel, artificiel et pas le naturel qui consommé modérément reste un produit qui est sain. Voilà. Rassurez-moi.
Alors, je vous rassure, bien sûr, c'est que tous les produits artisanaux, tous les produits de terroir échappent. D'ailleurs, ils échappent à toutes les réglementations européennes dans ce domaine-là. Donc, il n'y a absolument pas de problème. On est bien sûr sur les produits industrialisés, ceux qui sont consommés en grande quantité et ceux pour lesquels la consommation des moins intéressants sur le plan nutritionnel touche particulièrement les populations les plus défavorisées.
Chantal
et je vous remercie parce que vous avez en effet soutenu depuis le départ, avec entre autres votre journal, cette mesure, mais vous voyez qu'elle reste encore difficile à obtenir, de passer à l'affichage politique.
Professeur, il y a un quartier entier au Parlement européen à Bruxelles qui est destiné au lobby. Donc je peux vous dire que les gens qui se battent et qui tremblent à l'idée que votre produit soit appliqué, ça fait autant peur que le moteur à eau pour les producteurs de pétrole.
Bon, en tout cas, pour effectivement conclure peut-être, parce qu'on peut difficilement conclure un tel chantier, une telle question. On comprend qu'il y a beaucoup de blocages. Bruno Parmentier, on se rend compte qu'en France, il n'y a pas assez de parcelles et qu'il y a des freins et que ce n'est pas facile de développer cette agriculture. Si aujourd'hui, les citoyens veulent disposer plus largement de ces produits-là, qu'est-ce qu'il faut faire?
Écoutez, les circuits courts quand même. Déjà, regardez. La cantine. Tous les gens qui travaillent autour de les cantines, les syndicats pour les cantines d'entreprise, les parents d'élèves pour les cantines, disent « je veux 10 centimes de moins ». Mais 10 centimes de moins, le ticket de cantine, qu'est-ce que ça veut dire? Il paraît que 70% de la viande servie dans nos cantines est importée. Et moi, j'ai envie de dire, l'enjeu citoyen dans les cantines, c'est les 10 centimes, ou bien c'est la citoyenneté, l'emploi, le développement régional, la solidarité, une autre société que nous construisons ensemble.
Si on veut effectivement que les écoles, par exemple, soient alimentées avec de bons produits ou un peu plus de bio, parce qu'il y a cette tentative, on se rend compte qu'il n'y a pas assez. Vous disiez, Bruno Parmentier, qu'il faut que les agriculteurs investissent ce terrain-là. Mais le problème, c'est que leur propre terre est infectée. Il faut des années pour que les pesticides et tous les produits chimiques soient évacués. On le sait aujourd'hui.
Je vais vous raconter une. J'ai été alerté, et ce n'est pas la première fois, par des municipalités qui avaient décidé d'abord, de créer une cantine municipale, non pas de sous-traiter par un industriel de la chaîne transmission, de la chaîne du froid, et qui avait décidé de faire une cuisine intégrée, se fournissant sur des producteurs locaux. Eh bien, le préfet a cassé le contrat parce que l'appel d'offres n'avait pas respecté le moins 10 ans. Et donc, voilà des enfants qui étaient nourris avec des légumes, c'était dans le Vaucluse et c'était dans la Drôme. Des enfants qui étaient nourris avec les légumes du canton, faits par les producteurs du canton, en bio qui plus est. Eh bien, le préfet, sous la pression évidemment de gros producteurs, a cassé le marché entre la municipalité et ses producteurs. On a refait un appel d'offres, et c'est évidemment le grossiste de Château-Renard qui importe des légumes et des fruits empoisonnés du Maroc et d'Espagne qui a réalimenté la cantine. C'est absolument un scandale et c'est légal. Voilà. Donc le maire est au Conseil d'État, et c'est le 40e ou 45e cas que j'entends depuis 3 ans. Donc là, il y a un vrai problème politique à résoudre.
Allez, chacun, un peu d'espoir, une solution facile, facile.
D'abord, quand même, c'est le consommateur qui fait ses courses, hein. Donc c'est bien de se dire manipulé par tout le monde, mais qui est-ce qui décide le menu de demain midi, quand même, hein? Donc on a un pouvoir énorme. Alors on a un pouvoir aussi quand est-ce qu'on vote, hein? Je veux dire, est-ce qu'on va parler de choses aussi sérieuses que ça dans le vote? Est-ce qu'on peut interpeller les candidats à nos élections en disant, est-ce qu'on va mourir à petit feu de malbouffe ou est-ce qu'on fait quelque chose? Je suis d'accord avec vous, de votre saine colère. Bon, mais en même temps, on peut progresser. S'il y a des gens qui arrivent à produire avec zéro pesticide interdit, enfin les bio, il faut quand même des pesticides permis, hein. Il faut quand même du cuivre et du soufre, faut pas quand même idéaliser. Oui. Ça veut dire qu'on peut produire avec beaucoup moins. Bon, évidemment qu'on peut produire autant avec beaucoup moins. Il faut passer d'une agriculture chimiquement intensive à une agriculture écologiquement intensive. Il faut intensifier les processus écologiques comme avant on intensifiait les processus chimiques. Et ça, c'est une révolution complète dans notre agriculture. Et il faut aider les agriculteurs à le faire parce que ça consiste pas à dire je fais tout pareil, mais je divise par deux les doses de pesticides. Ça consiste à changer totalement les méthodes culturales. Par exemple, ne plus labourer, mettre des mélanges de plantes, faire de l'agroforesterie, etc., etc. C'est comment je t'aide à inventer vraiment d'autres méthodes pour produire à manger et comment je suis solidaire des agriculteurs qui habitent à moins de 200 km de chez moi. Et ça, c'est quand même une vraie décision de chaque consommateur.
Je vais essayer quand même de garder aussi un petit peu d'optimisme pour dire tout de même, le cadre a changé. C'est-à-dire que la demande sociétale, elle existe aujourd'hui beaucoup plus forte. Il y a 20 ans, les consommateurs faisaient moins attention à l'origine d'un aliment qu'à la marque de leur paquet de lessive. Donc, peut-être a-t-il fallu les crises sanitaires, c'est peut-être dommage, mais tout de même, il y a cette demande sociétale dont on peut espérer qu'elle puisse contribuer à agir sur les politiques. Parce que certes, le consommateur fait ses courses, mais il ne les fait pas de façon anodine dans un endroit où il peut choisir vraiment de lui-même. Il est quand même incité, poussé à manger certains types d'aliments. Donc il faut aussi une volonté politique forte.
Chantal Julia.
Oui, et puis il faut aussi se dire que cette demande sociétale, elle fait quand même quelque part, à un moment ou à un autre, pression aussi sur les industriels. Si on commence à se dire que quand on choisit son aliment, on peut essayer de tenir compte de la qualité nutritionnelle, et on le fait de plus en plus, on incitera davantage les industriels à modifier leur façon de produire, mais pas seulement de produire, mais aussi leur façon de transformer les aliments. Et on reviendra peut-être à des aliments transformés qui le sont moins ou qui sont moins saturé en gras, en sucre et en sel.
Perico Legas.
Les choses vont dans le bon sens. On va y arriver à force de faire du tapage, de monter un peu le ton de la voix. Ils vont finir par nous entendre. La traçabilité, vous savez, les produits entrant dans les viandes, dans les produits transformés. Fleury Michon vient de décider, alors que l'Europe n'en veut pas, une firme française a dit « je vais mettre la provenance de mes viandes dans mes plats cuisinés ». C'est une victoire énorme, ils n'avaient pas l'obligation de le faire. Ça veut donc dire que les esprits se mobilisent, que les consciences se sensibilisent et la doctrine Ekberg un jour sera dominante dans ce pays, je l'espère.
Un premier pas. Merci à tous. Merci Chantal Julia. Merci Serge Ekberg, Perico Legas et Bruno Parmentier.
Et c'est la fin de la marche des sciences et de la table ronde enregistrée à la Sorbonne lors du forum France Culture, l'année vue par les sciences, en partenariat avec l'Université Paris-Sorbonne et avec le soutien du magazine Science et Vie, du rectorat de l'Académie de Paris et d'Univers Sciences. Les informations et les liens sont à retrouver comme d'habitude sur le site internet de l'émission franceculture.fr, rubrique La Marche des Sciences. Vous pouvez réécouter l'émission, la télécharger, nous suivre sur Twitter ou encore sur la page Facebook. Merci à Catherine Donnet pour la préparation de la table ronde, Alexandra Malka qui était à la réalisation, Virginie Noël, Adrien Landivier et Samia Arom du service de la communication de France Culture. Et puis je n'oublie pas bien sûr les équipes de la Sorbonne et de Radio France qui ont rendu cette belle journée possible avec notre chargé de production Jean-Philippe Thomas et puis nos techniciens Sébastien Huel, Tanguy Lecorneau, Jean-Pierre Zing et Jérémy Tuile.